France Culture.
C'est le journal de la rédaction, Servane de Pastre, bonjour.
Bonjour, on sera en Asie en début de ce journal. Des inondations ont fait plus de 400 morts en Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie, selon un dernier bilan. Des milliers d'Airbus cloués au sol après une faille dans le logiciel de commande s'en sont suivies des annulations de vols, nombreuses, notamment en Amérique du Sud et en Asie. Et puis en cette journée mondiale de solidarité envers la Palestine, on fait le point sur la situation à Gaza, près de 2 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le bilan s'alourdit en Asie du Sud-Est. Plus de 450 personnes sont mortes depuis plusieurs jours. Des pluies diluviennes s'abattent sur la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Du jamais vu en 20 ans, dans certaines régions, l'eau est montée jusqu'à 3 mètres. Et des milliers de personnes n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. Juliette Chénion est à Bangkok en Thaïlande.
Oui, notamment à Hatyai, l'une des villes les plus touchées dans le sud de la Thaïlande. L'eau commence à redescendre aujourd'hui, mais des centaines de familles restent hébergées dans des centres d'urgence surchargés et les morgues aussi saturent. Sur la chaîne thaïlandaise Amarine TV, ses habitantes racontent avoir tout perdu, leur maison, leur stock de nourriture. On doit se battre et tout recommencer de zéro, disent-elles. L'heure est aussi au nettoyage. Sur des vidéos, on voit des rues boueuses, sans dessus-dessous, des carcasses de voitures entassées et des rues saturées de déchets. Ces derniers jours en Thaïlande, le gouvernement central a été pointé du doigt, accusé de ne pas assez mesurer les conséquences du changement climatique et d'avoir mal anticipé cette crise. Le Premier ministre thaïlandais a présenté ses excuses hier et promis des indemnisations de plus de 53 000 euros pour les sinistrés. Plus au sud, en Malaisie, l'alerte aux fortes pluies est levée. Quant à l'Indonésie, les secours continuent aujourd'hui de rejoindre les zones reculées, notamment sur l'île de Sumatra, dans la partie nord, dévastée elle aussi par les eaux. Pour la Thaïlande et l'Indonésie, le bilan humain est très lourd, l'un des pires ces dernières années pour des inondations.
4 jours après le départ d'un incendie gigantesque à Hong Kong, dans des gratte-ciels, la Chine lance une campagne d'inspection. Au moins 128 personnes sont mortes dans la catastrophe. 3 jours de deuil ont été annoncés. Les raisons de cet incendie sont encore inconnues, mais le feu aurait été favorisé par l'utilisation d'échafaudages en bambou. Une enquête anticorruption a également été ouverte par les autorités. Un bug de logiciel et ce sont des milliers d'avions qui ont été cloués au sol hier. On parle d'Airbus A320, une faille du logiciel de commande le rendait vulnérable aux radiations solaires. 6000 appareils sont concernés. Des mises à jour ont d'ores et déjà été réalisées sur 5000 avions, selon le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Une centaine pourrait être durablement indisponible à travers le monde. Des dizaines de milliers de passagers sont impactés et c'est en Amérique latine et en Asie que c'est le plus visible, Isabelle Labéry.
En Colombie notamment, où 70% de la flotte d'Avianca est concernée, une centaine d'appareils sont donc immobilisés sur leur base de maintenance. Il faudra au moins 10 jours pour régler le logiciel de commande ou changer le matériel informatique. 10 jours de perturbation donc pour les voyageurs qui devront annuler ou modifier leur itinéraire. La vente de billets a d'ailleurs été suspendue jusqu'au 8 décembre. En Asie aussi, le trafic aérien est touché. Au Japon, la compagnie ANA a dû annuler 65 vols aujourd'hui. Essentiellement des liaisons domestiques. Avec ses filiales, c'est l'un des principaux opérateurs Airbus du pays. Aux Philippines, une quarantaine de vols sont concernés via 2 compagnies locales. Là encore, la réorganisation des équipages, la reprogrammation des vols génère des coûts, des retards et un effet domino sur les prochains jours. Ailleurs, la situation est plutôt bien gérée. En Inde, par exemple, où environ 350 avions sont concernés, les ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied. La plupart des mises à jour ont été faites la nuit dernière. Même chose aux États-Unis où American Airlines dit avoir besoin de 2 heures seulement par appareil pour intégrer les corrections du logiciel. Dans ces deux pays, il ne restait plus ce matin qu'une centaine d'appareils à mettre aux normes et les perturbations sont finalement très limitées. En Europe, c'est à peu près le même scénario. Un retour à la normale est prévu dans le week-end.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de solidarité avec la Palestine. Une grande marche est prévue à Paris à 14h, place de la République. Il y a 2 jours, l'ONG Amnesty International publiait un rapport. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis début octobre dans l'enclave, la population palestinienne continue de manquer de tout. L'aide humanitaire ne rentre qu'au compte-gouttes et les attaques israéliennes se poursuivent. L'armée occupe plus de la moitié du territoire. Elle a annoncé hier avoir tué 9 combattants du Hamas dans le sud de l'enclave. En tout, ce sont 327 personnes qui ont été tuées depuis le début du cessez-le-feu, dit Amnesty International. Pour en parler, nous retrouvons Caroline Seguin à Gaza. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de Médecins sans frontières. Quelle est la situation sur place? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez?
On reste toujours avec ces grands camps de déplacés, les gens qui vivent sous des bâches plastiques. Donc ça n'a pas changé. Ce qui est encore pire par rapport, il y a quelques mois, c'est que l'armée israélienne maintenant occupe plus de la moitié du territoire et la bande de Gaza est coupée par ce qu'on appelle une ligne jaune qui sépare les troupes israéliennes et la population de Gaza. Donc maintenant, les gens sont très concentrés les uns sur les autres sous leurs bâches plastiques. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a une partie des hôpitaux qui étaient fonctionnels il y a quelques mois qui ne le sont plus parce qu'ils sont sous les zones occupées de l'armée israélienne. Du coup, l'accès aux soins est toujours extrêmement difficile pour la population et les conditions de vie sont aussi très 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 misérables, je dirais extrêmement misérables, parce que au niveau de la nourriture, ça s'améliore un petit peu comparé au mois de juillet-août où là on était vraiment dans une période de famine extrême. Là on voit que les marchés sont un petit peu plus approvisionnés, mais pas approvisionnés avec ce que la population a besoin. Donc là les marchés sont inondés de chips, de Coca-Cola, alors que il faudrait inonder de viande, de protéines, de ce genre de choses.
Et l'aide humanitaire, elle peut accéder aujourd'hui à l'enclave? Vos camions, ils passent aujourd'hui à Gaza?
Alors, certains items passent, donc on a pu renflouer un petit peu les stocks qui étaient quasiment vides. Hein. On était quasiment en rupture de compresse stérile, pour vous dire à quel point on en était juste avant le cessez-le-feu. Donc, on a pu faire rentrer quelques camions, mais ça n'a rien à voir avec le cessez-le-feu du mois de février où les camions étaient rentrés de façon massive. Aujourd'hui, ça reste toujours très compliqué. Les camions commerciaux sont priorisés par rapport aux camions humanitaires. Il y a encore beaucoup d'items qui restent dans une liste spécifique qu'on appelle les dual use, qui sont du matériel qui est extrêmement contrôlé par les Israéliens, qui demandent des autorisations spéciales. Ce système est toujours en place. On n'arrive pas à faire rentrer du matériel essentiel aujourd'hui.
Concrètement, vous manquez de quoi aujourd'hui?
Alors, on va manquer de stations de désalinisation pour pouvoir apporter de l'eau potable à la population. Donc ça, c'est toujours... les Israéliens empêchent toujours l'arrivée de ces désalinisations. On a aussi tout le matériel biomédical et les instruments chirurgicaux. On a ce qu'on appelle, dans notre jargon, les fixateurs externes qui sont du matériel chirurgical indispensable pour pouvoir traiter des fractures ouvertes. Donc on manque encore de matériel essentiel pour pouvoir apporter des soins d'un peu plus de qualité, on va dire.
Ces derniers jours, à la faveur de l'arrivée de l'hiver, il y a de fortes pluies qui se sont abattues dans l'enclave. Des abris de fortune ont été inondés. Cette période de l'hiver qui arrive, elle vous inquiète particulièrement ?
Oui, extrêmement. J'étais là l'année dernière pendant cette période hivernale et j'anticipe vraiment les problèmes. On a eu des pluies extrêmement fortes. Les gens sont vraiment donc les uns sur les autres. Donc la terre est très tassée. Donc les pluies, le sol n'absorbe plus du tout les pluies. Donc en fait, ça crée dès qu'il pleut, il y a des inondations partout. Donc même avec des tentes, les tentes de fortune qu'ils ont, l'eau rentre à l'intérieur, l'eau passe par le toit des tentes et du coup tout le monde est inondé. Donc là, c'était vraiment catastrophique la dernière pluie. Les gens étaient dans l'eau. Il faisait froid. Et l'année dernière, on a eu des nuits à 2 degrés. Et donc, tout ça, évidemment, ça entraîne des problèmes de santé. Donc, on a encore beaucoup de gens qui ont des blessures graves, des enfants qui sont brûlés, qui tombent dans le feu. Et donc, du coup, vivre dans un environnement humide et froid, ça ne va pas du tout améliorer les conditions d'amélioration de leur santé.
Vous craignez aussi peut-être la propagation de maladies, d'infections?
Alors oui, l'année dernière, on a eu des pics, notamment dans les services de pédiatrie pour les infections respiratoires chez les enfants, ça c'est sûr. On avait eu des pics de diarrhée, parce que les fosses septiques sont engorgées, donc du coup débordent au milieu des tentes. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et puis, évidemment, les infections des plaies qui vont arriver, les infections cutanées qui vont être plus nombreuses. Donc, on craint, évidemment, tout ça.
Aujourd'hui, il y a combien d'hôpitaux qui sont en fonctionnement à Gaza?
Alors, je ne peux pas vous dire exactement le chiffre. On est à peu près à la moitié du nombre de lits qu'il y avait avant la guerre. Et sachant que, comme je vous le disais, des grands hôpitaux qui étaient fonctionnels l'année dernière pendant la période hivernale ne le sont plus aujourd'hui. Et nous, on pouvait transférer des enfants qui avaient besoin, par exemple, de soins intensifs pédiatriques. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus dans la banque de Gaza, alors que l'hiver arrive.
Un grand merci, Caroline Seguin. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de Médecins sans frontières à Gaza.
Merci à vous.
Une délégation ukrainienne est en route pour les États-Unis, annonce le président Volodymyr Zelensky, afin de discuter du plan de paix proposé par Washington, plan largement inspiré des exigences russes. Des discussions qui se tiennent alors que l'Ukraine est fragilisée. Hier, le bras droit de Volodymyr Zelensky a été limogé suite à une enquête anti-corruption. L'Ukraine qui a subi cette nuit des attaques russes. 60 000 personnes sont privées d'électricité. Au moins une personne a été tuée. 11 ont été blessées. En Russie, c'est un important terminal pétrolier au sud du pays qui a été fermée après une attaque de drones. La Russie, qui a obtenu une petite victoire cette semaine, la Fédération internationale de judo a autorisé l'équipe russe à combattre à nouveau sous ses couleurs depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les athlètes concouraient sous bannière neutre. La décision prend effet ce week-end lors d'une compétition à Abu Dhabi et elle passe mal en Ukraine. Boris Loman, Jérémy Tchuil et Yachar Fazilov ont pu le constater à Kiev lors d'un entraînement de l'équipe nationale de judo.
Dans ce dojo du centre de Kiev, une cinquantaine de judokas s'entraînent, des hommes, des femmes, des athlètes professionnels, des Ukrainiens avant tout, qui enragent contre la réhabilitation des judokas russes. Yulia Kurchenko, médaillée de bronze au championnat d'Europe.
Je désapprouve cette décision de la Fédération internationale. Elle n'aurait jamais dû être prise. Personne ne veut voir le drapeau russe ni entendre leur hymne lors des compétitions. C'est une douleur de voir et d'entendre ça quand on sait tout le sang et les morts que les Russes ont provoqués sur notre terre.
C'est douloureux, oui, mais pas surprenant pour Vitaly Dubrova, le directeur sportif de la Fédération ukrainienne de judo.
On sait bien que bon nombre d'entreprises russes sponsorisaient la Fédération internationale de judo. VTB Bank, Rosneft, Gazprom, beaucoup de compétitions internationales se déroulaient en Russie, donc il y a de nombreuses connexions. On sait aussi que Vladimir Poutine était le président d'honneur de la Fédération internationale de judo. Et puis sur Internet, vous pouvez trouver plein de photos du président de la Fédé, Marius Wieser, en compagnie de Poutine. Bref, pas besoin d'en dire plus.
Mais la Fédération ukrainienne de judo ne compte pas en rester là. Elle nous annonce que ses athlètes boycotteront la prochaine compétition internationale le week-end prochain à Tokyo.
Les téléphones portables, bientôt interdits au lycée. Le président de la République a annoncé hier qu'il étendrait sans doute cette mesure, déjà en vigueur au collège. Le dispositif avait été expérimenté dans une centaine d'établissements l'année dernière avant d'être généralisé. Et ça marche plutôt bien, dit Emmanuel Macron. Pour Sophia Tizaoui, la présidente de l'Union syndicale lycéenne, ce n'est pas la priorité.
Aujourd'hui, il nous manque des professeurs devant nos classes. Aujourd'hui, on a des bâtiments délabrés de plus en plus. Et la seule solution pour répondre à nos besoins, c'est d'interdire le téléphone portable. Je suis désolée, mais à un moment donné, c'est un manque de respect pour les lycéens et lycéennes. D'autant plus qu'il a mis la faute sur le téléphone portable, comme quoi ce serait à cause de ça que la santé des jeunes se dégradait, etc. Mais en fait, c'est tout simplement faux. Ce qui dégrade aujourd'hui la santé mentale des jeunes, c'est les journées à rallonge du 8h-18h, qui en plus ne sont même pas finies parce que quand on arrive à la maison, il faut travailler. C'est le fait de ne pas pouvoir faire d'activités extrascolaires parce que justement, on n'a pas le temps. C'est tout ça en fait qui dégrade la santé mentale des lycéens et des lycéennes. Alors aujourd'hui, nous, cette mesure, elle est abjecte, et d'autant plus que ça coûte beaucoup d'argent, et c'est de l'argent qu'on pourrait investir pour le coup dans le bâtiment scolaire, dans le fait d'avoir des psychologues pour les élèves. Et je ne pense pas, encore une fois, que la priorité soit d'interdire le téléphone portable au lycée. Alors certes, ça peut être une source de distraction, mais moi, je vois aussi là une source de refuge, finalement. Parce que face à toute cette pression scolaire, il faut bien, à un moment donné, souffler un peu. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne va pas reprocher aux lycéens et aux lycéennes de vouloir se vider la tête parce que la journée de cours est trop longue.
Les syndicats de pharmaciens alertent sur un risque de pénurie de vaccins contre la grippe. Selon le président de l'Union des syndicats de pharmaciens, les doses qu'il reste pourraient permettre de tenir une semaine maximum si le rythme des injections se poursuit. Il appelle l'État à rapatrier des doses présentes dans son stock stratégique. Puis la météo pour finir. Une perturbation s'étend du nord de l'Aquitaine au Hauts-de-France. Dans le sud, le temps sera ensoleillé. Pour les températures, il fera 10 degrés à Strasbourg, 12 degrés à Lyon et à Paris et 17 degrés à Perpignan. Un grand merci à Antoine Boucher pour la réalisation de ce journal, à Louise Guérin pour la préparation de l'interview. Grégory Wallon était à la technique.